Bonjour. Aujourd'hui, je veux vous lire le yoga et la santé. Le yoga et la santé, extrait des œuvres de Mère. Alors, je vous lis la jeunesse, la vieillesse et la mort. Un des chapitres vers la fin du livre. Sincérité, humilité, persévérance et soif insatiable de progrès sont essentiels pour une vie heureuse et efficace. Et surtout, il faut être convaincu que la possibilité des progrès est sans limite. Le progrès, c'est la jeunesse. On peut être jeune à 100 ans. À partir du moment où vous êtes insatisfait et où vous cessez d'aspirer, vous commencez à mourir. La vie est un mouvement. La vie est un effort. C'est une marche en avant, une ascension vers les révélations et les réalisations futures. Rien n'est plus dangereux que de vouloir se reposer. Seules les années vécues en vain vous font vieillir. Une année vécue en vain est une année durant laquelle aucun progrès n'a été accompli. Aucune croissance de la conscience n'a été réalisée. Aucun pas en avant n'a été fait vers la perfection. Consacrez votre vie à la réalisation de quelque chose de plus haut et de plus vaste que vous-même, et vous ne sentirez jamais le poids des années qui passent. Pourquoi les hommes sont-ils obligés de quitter leur corps? Question. Parce qu'ils ne savent pas aller assez vite, aussi vite que la nature dans son progrès vers le divin. Au point de vue de la connaissance spirituelle, la décrépitude et la dissolution, la désintégration sont simplement, incontestablement, le résultat d'une mauvaise attitude. Quand les corps ont appris l'art de progresser vers une perfection croissante, la fatalité de la mort sera en bonne voie d'être vaincue. Savoir à chaque instant renaître à une vie nouvelle est le secret de la jeunesse éternelle. La jeunesse ne dépend pas du petit nombre des années, mais de la capacité de croître et de progresser. Croître, c'est augmenter ses potentialités, ses capacités. Progresser, c'est perfectionner sans cesse vers les capacités que l'on possède déjà. La vieillesse ne vient pas du grand nombre des années, mais de l'incapacité ou de refus de continuer à croître et à progresser. J'ai connu des vieillards de 20 ans et des jeunes gens de 70 ans. Dès que l'on veut s'installer dans la vie et profiter de ses efforts du passé, dès que l'on pense avoir fait ce que l'on devait faire et accompli ce que l'on avait à accomplir, en un mot, dès que l'on cesse de progresser, d'avancer sur le chemin de la perfection, on est sûr de reculer et de vieillir. Au corps aussi, on peut apprendre qu'il n'y a, pour ainsi dire, aucune limite à sa croissance en capacité et à son progrès, pourvu que l'on découvre la vraie méthode et les vrais conditionnement. Telle est une des nombreuses expériences que nous voulons tenter pour rompre les suggestions collectives et monter au monde que les possibilités et montrer au monde que les possibilités humaines dépassent toute imagination. De janvier 1949. La jeunesse, c'est le progrès. Il y a une vieillesse beaucoup plus dangereuse et beaucoup plus véritable que l'accumulation des années. C'est l'incapacité de croître et de progresser. Dès que l'on s'arrête d'avancer, dès que l'on s'arrête de progresser, de s'améliorer, de s'accroître, de grandir, de se transformer, on vieillit véritablement, c'est-à-dire que l'on descend vers la désintégration. Il y a des jeunes gens qui sont vieux et des vieillards qui sont jeunes. Si l'on porte en soi cette flamme de progrès et de transformation, si l'on est prêt à tout laisser derrière soi pour avancer d'un pas alerte, si l'on s'ouvre toujours au nouveau progrès, à l'amélioration nouvelle, à la transformation nouvelle, alors on est éternellement jeune. Si l'on s'assoit satisfait de ce que l'on a accompli, si l'on a le sentiment que l'on a atteint son but et qu'il n'y a plus de résultat dans ses efforts, alors on est déjà plus de la moitié de son corps dans la tombe. C'est la décrépitude et la vraie mort. Tout ce que l'on a fait toujours n'est rien à côté de ce qui reste à faire. Il ne faut pas regarder en arrière. Il faut regarder en avant, toujours en avant, et avancer toujours, toujours, toujours. Question. Pourquoi le physique cesse-t-il de progresser? Tout le temps on s'extériorise et tout le temps on rapporte quelque chose de son extériorisation. C'est comme une chose poreuse. La force sort et puis une autre force rentre. Il y a des pulsations comme cela. Et c'est pour cela qu'il est très important de choisir l'entourage dans lequel on vit, parce qu'il y a une sorte d'échange constant entre ce que l'on donne et ce que l'on reçoit. Les gens qui se projettent beaucoup dans l'activité reçoivent davantage. Ils reçoivent sur le même plan, sur le plan de leur activité. Les enfants, par exemple, qui sont plus jeunes, qui sont toujours à bouger, toujours à crier, toujours à courir, sauter. C'est très rare qu'ils se tiennent tranquilles, excepté quand ils dorment et encore. Eh bien, eux, ils dépendent beaucoup. Ils dépensent beaucoup. Ils reçoivent beaucoup. Et généralement, c'est une dépense d'énergie physique et vitale et une réception des énergies physiques et vitales. Ils récupèrent en grande partie ce qu'ils dépensent. Alors là, il est très important qu'ils soient dans un milieu où ils puissent, après avoir dépensé, ou pendant qu'ils dépensent, récupérer quelque chose qui soit au moins d'une qualité égale à l'heure, qui ne soit pas d'une qualité inférieur. Quand on n'a plus cette espèce de générosité d'où mouvement, on reçoit beaucoup moins. Et c'est une des raisons principales de l'arrêt dans le progrès physique. C'est parce que l'on devient économe. On essaye de ne pas gaspiller. Le mental intervient, il faut faire attention, pas se fatiguer, pas en faire trop, etc., etc. Le mental intervient et la réceptivité physique diminue. Finalement, on ne grandit plus. À force de devenir raisonnable, on ne grandit plus. 5 août 1953. Question. Le mental paralyse l'échange des énergies. Comment se fait-il qu'à mesure que les activités mentales augmentent, la capacité de ces énergies diminue? Chaque adulte, le mouvement mental tend à paralyser le mouvement spontané d'échange des énergies. Jusqu'à l'âge de 14 ans, l'enfant, à part quelques rares exceptions, est un petit animal. Il renouvelle ses énergies spontanément comme un animal par les mêmes activités, les mêmes échanges. Mais le mental introduit un déséquilibre dans l'être. L'action spontanée est remplacée par quelque chose qui veut savoir régler, décider et retrouver cette capacité de renouveler spontanément les énergies. Il faut monter à un échelon supérieur, au-dessus de l'instinct, c'est-à-dire passer de l'activité mentale ordinaire à l'intuition en ligne directe. 25 décembre 1950. Question. La réceptivité du corps est-elle limitée? Entretien du 16 juin 1929. La mère entretient. La force qui descend en celui qui fait un yoga et l'aide dans sa transformation agit de bien des façons et les résultats diffèrent suivant la nature qui la reçoit et le travail qui est à faire. Tout d'abord, elle a dans l'être la transformation de tout ce qui est prêt à changer. Si c'est dans son mental qu'il est ouvert et réceptif, le mental touché par la puissance du yoga se met à progresser extrêmement rapidement. La même promptitude de changement peut se produire dans la conscience vitale si elle est prête, et même dans le corps. Mais dans ce corps, le pouvoir transformateur du yoga agit jusqu'à un certain point, car la réceptivité du corps est très limitée. La condition de la région la plus matérielle de l'univers est encore telle que la réceptivité y est largement mélangée de résistance. Un rapide progrès d'une partie de l'être qui n'est pas suivi d'un progrès équivalent des autres parties produit un désaccord dans la nature, une dislocation quelque part. Et partout où cette dislocation se produit, il peut produire une maladie. La nature de la maladie dépend de la nature de la dislocation. Question. Pourquoi la réceptivité du corps est-elle si limitée? Parce que dans le monde physique, pour que les choses ne se mélangent pas, il a fallu qu'il soit le corps un peu fixe. Si par exemple votre corps était si subtil et plastique que tout d'un coup il se met à fondre comme cela devant quelqu'un d'autre, ce serait ennuyeux. Et quand vous approchez, si ça se mélangeait, ce serait très désagréable. Alors à cause de cela, il y a une concentration plus grande, une sorte de fixité dans la force pour séparer. Vraiment, c'est pour séparer une individualité d'une autre individualité. Et cette fixité, c'est justement ce qui empêche le corps de progresser aussi rapidement qu'il pourrait et devrait le faire. À mesure que l'on devient plus grand, que l'on a atteint sa taille normale et sa constitution normale, on devient encore plus rigide. Parce que les enfants ont cette plasticité de croissance. Ils sont tout le temps à changer. Ils sont visiblement à changer. Alors, tant qu'ils sont jeunes et qu'ils sont en croissance et en développement, ils ont une certaine plasticité en eux. Mais quand on a dépassé 40 ans, comme généralement dans la vie on s'assoit et on pense qu'on est arrivé, qu'on va récolter les fruits de ses efforts, alors on devient aussi sec et aussi dur que du bois. D'abord et finalement comme de la pierre. Et comme le corps ne peut plus du tout s'adapter au mouvement de transformation intérieure, il traîne, il vieillit, il ne peut plus suivre. Alors il se dessèche. Question. Ne peut-on pas empêcher, par la force yogique, le corps d'être rigide? On peut. Quand vous faites de la gymnastique, est-ce que ce n'est pas pour rendre votre corps moins rigide? Et vous progressez? Ce que vous ne pouvez pas faire la première année, au bout de quelques années, vous pouvez le faire. Il y a des gens qui arrivent à une souplesse presque totale, comme par exemple ceux qui font des asanas. On peut arriver à une souplesse presque complète, tandis qu'un homme ordinaire, s'il essayait de faire ses exercices, ça casserait quelque chose. Eh bien, c'est comme cela. Mentalement, c'est la même chose. C'est par la gymnastique qu'on s'assouplit. C'est une question de discipline et de développement. Tu as dit, dans les régions matérielles, la réceptivité était mélangée à des résistances. Quelle est cette résistance ? Tu n'as pas de résistance dans ton corps, non? Quand tu veux faire un exercice, tu fais avec ton corps tout ce que tu veux. Quand tu essayes de bien te porter, ton corps obéit toujours. Quand tu veux apprendre une leçon, ton cerveau suit sans difficulté. C'est cela la résistance. Tout ce qui refuse le progrès. Et je crois malheureusement que la quantité de résistance est beaucoup plus grande que la quantité de réceptivité. Il faut beaucoup, beaucoup travailler pour devenir réceptif. Question. L'incapacité du corps à se transformer. C'est justement parce que dans le monde physique, la progression n'est pas perpétuelle et constante qu'il y a une croissance, une apogée, une descente et une décomposition. Parce que tout ce qui avance n'avance pas recule. Tout ce qui ne progresse pas, régresse. Alors physiquement, c'est justement ce qui se produit. Le monde physique n'a pas appris à progresser d'une façon indéfinie. Il arrive qu'à un certain point, puis il se fatigue de progresser, ou il n'est pas capable de progresser dans cette constitution. Mais enfin, il cesse de progresser, et au bout d'un temps, il se décompose. C'est l'incapacité du corps à se transformer, à continuer à progresser, qui fait qu'il régresse et que finalement il devient de plus en plus sensible au déséquilibre intérieur jusqu'au jour où il est assez fort pour le déséquilibrer tout à fait et qu'il puisse reprendre son équilibre et sa santé. Changer l'habitude de la nature. Si les hommes ne mouraient pas avec l'âge, leur corps deviendrait inutile. Oh non, tu vois à l'envers. Ils pourraient ne pas mourir seulement si leur corps ne dégénérait pas. C'est justement parce que leur corps dégénère qu'ils meurent. C'est parce que le corps devient inutile qu'il meurt. Pour qu'il ne meure pas, il faudrait que leur corps ne devienne pas inutile. C'est juste le contraire. C'est justement parce que le corps dégénère, se détériore et finit par une dégradation complète que la mort est nécessaire. Mais si le corps suivait le mouvement de progression de l'être intérieur, s'il n'y avait pas le sens de progrès, de perfectionnement, que l'être psychique, il n'aurait pas besoin de mourir. Il n'est pas nécessaire qu'une année sur l'autre apporte la détérioration. C'est seulement l'habitude de la nature. C'est seulement l'habitude de ce qui se passe en ce moment. Et c'est justement cela qui est la cause de la mort. On peut très bien prévoir, au contraire, que ce mouvement de perfectionnement qui est au commencement de la vie, puisse continuer sous une autre forme. Je vous ai déjà dit que l'on ne prévoit pas une croissance ininterrompue, parce qu'il faudrait changer la taille des maisons au bout d'un certain temps. Mais cette croissance en hauteur peut se changer en une croissance en perfection. La perfection de la forme. Toutes les perfections de la forme peuvent petit à petit s'améliorer. Toutes les faiblesses peuvent être remplacées par des forces. Toutes les incapacités par des habiletés. Pourquoi ne serait-ce pas comme cela? Vous ne pensez pas comme cela? Parce que vous avez l'habitude de voir les choses autrement. Il n'y a aucune raison que cela ne soit pas. On se dépouille de quelque chose, mais c'est pour pouvoir grandir encore et avoir quelque chose de plus. On doit pouvoir garder l'harmonie, la beauté jusqu'au bout. Il n'y a aucune raison que l'on ait un corps qui n'ait plus de raison d'être, qui n'ait plus de raison d'exister, parce qu'il ne serait plus bon à rien. N'être plus bon à rien, c'est justement cela qui le fera disparaître. On pourrait avoir un corps qui va de perfection en perfection. Il y a beaucoup de choses dans le corps qui vous font dire « Ah, si c'était comme cela !»« Ah, je voudrais que ce soit comme cela !» Je ne parle pas de votre caractère, parce que là, il y a tant de choses à changer. Je parle simplement de votre apparence physique. On s'aperçoit d'une désharmonie quelque part et on dit « Si cette désharmonie disparaissait, ce serait beaucoup mieux. » Mais parfois, ne pensez-vous pas que cela pourrait être? Si vous vous regardez d'une façon tout à fait objective, pas avec cette sorte d'attachement que l'on est une petite personne, mais d'une façon tout à fait objective. On se regarde comme on regarderait quelqu'un d'autre et on se dit « Tiens, cette chose-là n'est pas tout à fait en harmonie avec celle-là. » Et si l'on regarde encore, on s'aperçoit que cette harmonie est l'expression d'un défaut de caractère. C'est parce que dans votre caractère, il y a quelque chose d'un peu tordu et de pas du tout harmonieux. Et dans votre corps, cela se reproduit quelque part. C'est très, très important. Alors, je me permets de vous le répéter. C'est parce que dans votre caractère, il y a quelque chose d'un peu tordu et de ne pas du tout harmonieux. Et dans votre corps, cela se reproduit quelque part. Vous essayez de l'arranger dans votre corps et vous vous apercevez que pour remonter à la source de cette désharmonie physique, il faut que vous trouviez le défaut dans votre être intérieur. Alors, vous commencez à travailler et le résultat s'obtient. Vous ne savez pas à quel point le corps est plastique. D'autres points de vue, je dirais qu'il est terriblement rigide. C'est pour cela que le corps se détériore. Mais c'est parce que nous ne savons pas nous en servir. Nous ne savons pas quand nous sommes encore frais comme des petites feuilles. Vouloir un épanouissement somptueux, magnifique, sans défaut, et au lieu de se dire d'un air un peu misérable, comme c'est malheureux que mes bras soient encore trop maigres, que mes jambes soient trop longues et que mon dos ne soit pas droit ou que ma tête ne soit pas tout à fait harmonieuse, alors on se dit, il faut que ce soit autrement, il faut que mes bras soient proportionnés, que mon corps soit harmonieux, que toutes mes formes soient expressives d'une beauté du plus haut. Alors vous y arriverez. Vous y arriverez si vous savez le faire avec la vraie volonté, persistante, tranquille, qui n'est pas impatiente, qui ne s'occupe pas des apparences de défaite, mais qui continue son travail tranquillement, qui continue à vouloir que ce soit, à chercher la raison intérieure, à la découvrir, à travailler avec son énergie. Tout de suite, quand on voit un petit ver noir quelque part qui n'est pas joli, qui fait une petite tache un peu déplaisante, dégoûtante, on le prend, on l'arrache, on l'enlève et on met la jolie lumière à sa place. Et au bout d'un quelque temps, on s'aperçoit, tiens, cette harmonie que j'avais dans la figure est en train de disparaître. Cette désharmonie, pardon. Ce signe de brutalité, d'inconscience qui était dans mon expression, mais cela s'en va, et 10 ans après, on ne se reconnaît plus. Et vous êtes tous là de la matière jeune. Il faut savoir en profiter. Et pas pour des petites raisons égoïstes et sottes, mais par amour de la beauté, par le besoin de l'harmonie vraie, pour que le corps dure et qu'il ne faut pas qu'il se détériore et qu'il n'ait pas de déchéance. Il faut qu'il gagne d'un côté, que ce soit la transformation, que ce ne soit pas une déchéance. Et avec la déchéance, il n'y a pas de possibilité d'immortalité. Alors je termine. Non, je ne mourrai pas. Quelquefois, question, quand les gens meurent, ils comprennent qu'ils vont mourir, pour qu'ils ne disent pas au génie pourquoi ils ne disent pas au génie de la mort de s'en aller. Eh bien, cela dépend des gens. Il y a 2 choses nécessaires. D'abord, que rien dans votre être, aucune partie de votre être ne désire mourir. Cela n'arrive pas souvent. Vous avez toujours un défaitiste en vous, quelque part. Quelque chose qui est fatigué, quelque chose qui est dégoûté, quelque chose qui en a assez, quelque chose qui est paresseux, quelque chose qui ne veut pas lutter et qui dit « Tiens, ah, que ce soit fini, tant mieux, cela suffit, vous êtes déjà mort. » Mais c'est un fait. Si rien, absolument de rien en vous ne consent à mourir, vous ne mourrez pas. Pour que quelqu'un meure, il y a toujours une fraction de seconde, peut-être 1/100 partie d'une seconde, où il va consentir. S'il n'y a pas cette seconde de consentement, il ne meurt pas. Pardonnez-moi, c'est ce que j'ai fait il y a 15 ans, lors de mon accident. J'ai connu beaucoup de gens qui, vraiment, selon les lois physiques et brutales, auraient voulu mourir. Et ils ont refusé. Ils ont dit « Non, je ne mourrai pas ». Et ils ont vécu. Il y en a d'autres qui n'auraient pas du tout besoin de mourir, mais ils sont comme cela. Ah, eh bien, tant mieux, ce sera fini et c'est fini. Mais rien de cela, même pas le plus que cela. Vous n'avez pas besoin d'un désir persistant. Vous n'avez qu'à dire, eh bien, oui, j'en ai assez et c'est fini. Et alors, c'est vraiment comme cela. Comme tu dis, on peut avoir la mort debout, à son chevet, et lui dire à ce génie de la mort, « Non, je ne te veux pas, va-t'en. » Et il sera obligé de s'en aller. Mais généralement, parce qu'il faut lutter, qu'il faut être beaucoup plus fort, parce qu'il faut être très courageux et endurant et avoir une foi immense dans la nécessité de la vie. Comme quelqu'un, par exemple, qui sent très fortement qu'il y a encore quelque chose à faire et qu'il faut absolument qu'il le fasse, mais qui est sûr qu'il n'a pas au-dedans de lui un petit bout de défaitisme quelque part, qui justement cède, eh bien, c'est cela, la nécessité de la mort. Je termine la jeunesse, la vieillesse et la mort avec ce dernier « Faire de sa mort une victoire ». C'est ce qui m'est arrivé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me permets de vous lire ça. Parce que cette Ganga Lakshmi qui lit en ce moment a eu un rêve avec Mère qui lui a répondu « Tu n'as pas fini ta mission ». Et depuis 2004, elle est revenue, elle est très, très, très dédiée d'une autre manière à Sri Aurobindo et Mère. C'est pour ça qu'il faut faire de sa mort une vraie victoire. Alors la conclusion, il ne faut jamais souhaiter la mort. Il ne faut jamais vouloir mourir. Il ne faut jamais aussi avoir peur de mourir. Il faut en toutes circonstances vouloir se surpasser soi-même. Mais la perfection dans le vital, dans le mental et dans le physique surtout, il faut continuer et continuer et continuer toujours à l'avoir. C'est pour ça que Sri Dr. Kirit Joshi m'a dit de lire à Auroville Radio et je lis grâce à Renou qui m'a aidé à Auroville Radio. Je remercie toutes les personnes qui m'ont aidé à progresser, qui m'ont aidé à avancer et qui continuent à l'aider, à aider à Savitri Bhavan. Merci douce mère. Merci Sri Aurobindo, Ganga Lakshmi.